Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés, où aujourd'hui on va vous parler d'un sujet que j'ai évoqué sur les réseaux sociaux, qui est la guerre des semi-conducteurs. Alors, à en parler comme ça, effectivement, ce n'est pas très vendeur, mais en réalité, c'est souvent quelque chose qui n'est pas évoqué. On parle très souvent des guerres pétrolières, de ce que a pu représenter l'OPEP, de toutes ces choses-là, mais en réalité, les semi-conducteurs aujourd'hui sont une réalité encore plus prégnante dans notre monde. Et il est vraiment nécessaire que vous ayez tous en tête ce que ça peut représenter. Mais je pense qu'avant, Charles, tu voulais parler des deux magazines à nos amis.
Vous savez, je vous en avais déjà parlé. C'est les deux magazines que nous soutenons activement à l'Institut des Libertés. Le premier, c'est Transition Énergie, qui vous explique, dans le fond, quelles sont les solutions intelligentes dans le domaine de l'énergie. Et je trouvais que ce numéro était particulièrement intéressant. Il couvre des choses comme les batteries, l'envol de l'éolien, le rôle de la Chine, le cycle. Donc pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre ce qui se passe dans tout ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, c'est un document absolument. Il paraît 4 fois par an et ils ont besoin de votre soutien. Donc une fois de plus, je vous fais un appel, Transition Énergie, ça doit être dans votre kiosque, n'hésitez pas. Et alors le deuxième, c'est, vous savez qu'il y a une vieille école qu'on appelle l'école française de la géopolitique, qui a des différences avec les écoles qui sont plutôt anglo-saxonnes, et le phare de cette pensée géopolitique, c'est le document, ce que nous soutenons ici, je suis actionnaire des deux, j'ai aidé à les lancer, et c'est pour essayer de réfléchir sur les problèmes qui se passent dans le monde, un peu partout, sur l'émergence de l'Inde. Et donc, on se retrouve dans un monde où vous avez devant vous d'immenses changements technologiques et d'immenses changements géopolitiques. Donc, si vous voulez essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, bah, c'est peut-être pas la peine de regarder TF1 ou Antenne 2. Hein. Vous pouvez acheter ça et vous serez infiniment plus intéressant que si vous dites répéter ce qu'on vous dit. Donc voilà un petit peu les deux trucs. C'est que pour nous, c'est important. Et vous savez, ce qu'on a essayé de faire à l'Institut des Libertés depuis toujours, c'était de vous aider à comprendre. On veut pas vous dire ce qu'il faut penser, on veut vous aider à comprendre comment vous pouvez penser par vous-même. Et je crois que ces deux outils sont des éléments importants dans cet effort. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très important qui est ce qui sous-tend toute notre civilisation aujourd'hui.
Alors, pour faire ce travail, je me suis donc inspirée de ce livre que j'ai lu en entier, d'un jeune professeur d'histoire de Yale et d'Harvard qui s'appelle Chris Miller. Et le bouquin s'appelle « La guerre des semi-conducteurs, l'enjeu stratégique mondial ». Alors, il en ressort que de nos jours, les dirigeants chinois s'inquiètent beaucoup moins de la manne américaine que d'une obscure réglementation au département américain qui s'appelle Entity List et qui limite le transfert de technologies à l'étranger. Auparavant, avant 2020, l'Entity List avait été utilisée pour lutter contre le transfert des activités militaires, mais elle n'était pas, absolument pas utilisée contre le transfert des données commerciales. Et là, à ce moment-là, à partir de 2020, le gouvernement américain a voulu enrayer le développement de Huawei. Et à ce moment-là, est intervenu par le biais de ces entity lists. En gros, les USA craignaient que l'influence géographique de la Chine n'augmente terriblement. Et à ce moment-là, l'expansion mondiale de Huawei fut stoppée absolument net.
Alors, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé avec Huawei, il s'est passé un phénomène très curieux, c'est que Huawei s'était lancé dans tout ce qui était les réseaux, c'est-à-dire le machin d'Internet et tout. Et ils bouffaient, et en l'espace de 4-5 ans, ils avaient rattrapé leur retard sur les Suédois, sur les Français, etc. Et donc, les Américains ont décidé de l'arrêter net. Et ils ont pris une mesure qui aurait dû tuer Huawei. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Huawei a survécu les 3 ou 4 ans qui viennent de se passer et maintenant revient très fort.
Et dans leur marché interne, on va le voir. Cela dit, les USA ont toujours la mainmise sur les puces en silicium, qui ont donné d'ailleurs leur nom à la Silicon Valley. Et la Chine aujourd'hui dépense plus d'argent chaque année pour importer des puces que pour acheter du pétrole.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Donc ça représente un budget absolument incroyable. Alors, évidemment, les stratèges du dimanche nous expliquent, théorisent toujours sur le dilemme de Malacca de la Chine en référence au principal canal de navigation, mais ils oublient la capacité du pays à s'approvisionner en pétrole. Or, Pékin s'inquiète beaucoup plus d'un blocus mesuré en octantes qu'en baril.
Oui, alors là, ce que cherchent à faire les Américains, c'est que les Chinois sont montés très vite dans la construction de produits de plus en plus sophistiqués. Et donc, ce qui donne leur pouvoir aux États-Unis littéralement aujourd'hui, c'est le pouvoir sur la technologie des semi-conducteurs de très haute qualité. Donc, ils ont décidé de bloquer. Et je crois que la Chine a lancé un plan, quelque chose comme 300 milliards de dollars, c'est pour vous dire les montants, pour développer beaucoup plus vite les puces qui étaient faites autrefois par les sociétés américaines, c'est-à-dire pour entrer en concurrence.
Alors la Chine, effectivement, mobilise aujourd'hui ses meilleurs cerveaux et dépense des milliards de dollars pour développer sa propre technologie de semi-conducteurs dans le but de se libérer de la dépendance aux puces américaines. Oui. Apple ne fabrique plus aucune de ses puces, elle achète la plupart d'entre elles. Elle a des puces de mémoire de Geoxia au Japon, des puces radiofréquences de Skyworks en Californie, des puces audio de Cirrus Logic basées à Austin au Texas, et Apple conçoit en interne les processus ultra complexes qui font tourner le système d'exploitation d'un iPhone.
Oui, alors tout ça est très exact, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains ne tiennent pas tellement le système de production. Ils font pas les puces, en quelque sorte. C'est plutôt les Taïwanais qui les font. Mais ils détiennent complètement les brevets sur ces trucs-là. Et ça, c'est un des trucs qui est extrêmement important parce que ce qu'ils veulent pour la première fois dans l'histoire, c'est empêcher une idée de devenir internationale. Ouais. Et ça va être dur. Hein.
Alors aujourd'hui, les processus les plus avancés d'Apple, qui sont sans doute les semi-conducteurs les plus avancés du monde, ne peuvent être produits que par une seule entreprise, dans un seul bâtiment, l'usine la plus chère de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, aucune entreprise ne fabrique de puces avec plus de précision que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mieux connue sous le nom de TSMC.
Oui.
Donc, en gros, cette usine de Taiwan, basée donc à Taiwan, centralise elle seule pratiquement tout le savoir de l'humanité aujourd'hui. Toutes nos puces de partout dans le monde dépendent de cette usine à Taïwan. Aujourd'hui, elle se prend une bombe, on ne sait plus quoi faire.
Ben c'est exactement ça. On a les pieds dans la neige et en étant en chaussures de chrétien de gauche, donc on va avoir froid. Mais la réalité, c'est assez amusant, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte. C'est, vous savez, dans cette développement d'une société de plus en plus efficace, ceux qui faisaient le mieux les puces, c'était les Taïwanais. Et donc, c'est eux qui les font maintenant. Et donc, mais ça nous a rendu, comme on l'a souvent expliqué aussi, de plus en plus fragiles. Parce qu'il ne faut pas oublier que Taïwan est à 100 km de la Chine ou quelque chose comme ça. Et qu'en effet, si on les bombarde, on est mal parti. Donc, il y a quand même chose de rigolo. C'est-à-dire, si on laisse les marchés se développer comme ça, sans trop réfléchir à la géostratégie, voire conflit, là, on se retrouve dans un monde où on peut avoir des trucs. Ben, nous, on ne peut plus faire de médicaments. Si on bombarde Taïwan, on n'a plus de puces et l'économie mondiale s'arrête. Donc, on se rend bien compte que, quelque part, un développement complètement anarchique qui cherche la rentabilité maximum du capital investi à court terme, c'est peut-être pas le monde le plus antifragile qui existe. Quoi.
Alors, si on devait suivre aujourd'hui le chemin d'une puce typique lambda, elle peut être conçue à partir de plans de la société ARM détenue par le Japon et basée au Royaume-Uni, que par une équipe d'ingénieurs en Californie, en Israël, à l'aide d'un logiciel de conception. Et elle termine, elle est envoyée dans une usine située à Taïwan qui achète des plaquettes de silicium ultra pures et des gaz spécialisés au Japon. Donc, on se retrouve toujours avec, à la fin de la journée, tout le monde qui va à Taïwan dans cette usine.
Oui, parce que c'est là que les gens, ils disent comment il faut le faire. Donc, il y a des bureaux d'études, etc. Mais les types qui mettent, comme tu dis toujours, le chocolat dans le papier, ben, ils sont à Taïwan. Hein.
Alors, le design aujourd'hui, c'est gravé dans le silicium à l'aide de machines les plus précises du monde qui peuvent graver, déposer ou mesurer des couches de matériaux de quelques atomes d'épaisseur. Et ces outils sont principalement produits par 5 entreprises, une néerlandaise, une japonaise et 3 californières.
Et je crois que tous les brevets sont américains.
Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Là, je te parle de la conception. Le brevet, c'est en amont. Ensuite, la puce est emballée et testée, souvent en Asie du Sud, avant d'être envoyée en Chine pour être assemblée dans un téléphone ou dans un ordinateur.
Oui, parce que les usines d'Apple pour faire les téléphones, ils sont en Chine. Enfin, ils sont en train d'essayer de les foutre en Inde et au Vietnam, mais pour l'instant, ils sont en Chine.
Aucun autre secteur de l'économie ne dépend d'un aussi petit nombre d'entreprises.
Non.
Les puces de Taïwan fournissent 37% de la nouvelle puissance informatique chaque année. 2 entreprises coréennes produisent 44% des puces de mémoire mondiale.
Oui, c'est Samsung et je ne sais plus quel est l'autre, oui. Et donc, c'est très intéressant. Et alors, à ça, tu vas sans doute y venir, mais je voudrais ajouter quelque chose à ce moment-là, c'est que, bon, ça, c'est le système existant. Mais nos aimables auditeurs ont dû remarquer que les gens s'excitaient sur quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et ça, c'est le... Donc, mais ça, c'est... Ça existe dans la tête des gens, mais ça n'existe pas dans la réalité. Et la seule firme qui fait des puces qui sont encore plus etc., spécialisées, c'est une firme qui s'appelle Nvidia. Nvidia, c'est une firme américaine. Et le cours de Nvidia, je vous montre ici, mais c'est à mourir de rire, si vous le mettez, si vous voulez, il est passé de 0,64 par action en 2016 à quelque chose comme $163 aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez été multiplié par 1000 en l'espace de 4-5 ans, et la hausse de Nvidia dans les 2 ou 3 derniers mois a été supérieure à la capitalisation boursière de la Bourse de Paris. En l'espace de... Et aujourd'hui... Donc, ce que tu décris, c'est la réalité, mais devant, il y a une espèce d'étape technologique qui va être Nvidia, et Nvidia, qui est donc cette société qui est passée de 0,64 à je ne sais pas combien, $200, c'est pour vous dire la hausse qu'il y a eu. C'est assez étonnant parce qu'elle n'a que 5 clients. Et ces 5 clients sont Microsoft, Apple... Amazon, enfin les suspects habituels, quoi, et qui tous se lancent dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en termes techniques, dans la bourse, une bulle. C'est une bulle d'anthologie, comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Et donc, mais sur quelque chose qui n'existe pas encore. Les sociétés de conducteurs, elles sont très cycliques parce qu'on passe d'avoir des surcapacités, donc ça monte, ça baisse, mais dans l'ensemble. Donc il faut bien comprendre que le semi-conducteur, c'est la matière première de l'économie de la connaissance.
Mais il nous fait un concert.
Il nous fait un concert, oui. Donc c'est la matière première de l'économie de la connaissance. J'avais écrit un livre là-dessus il y a 10 ans qui s'appelait C'est une révolution, dans lequel j'expliquais que le développement qui arrivait, c'était une multiplication de l'esprit humain. Et on y est. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la bourse anticipe de telle façon qu'on va peut-être se péter la gueule dans ce truc-là, sans doute d'ailleurs, comme on s'est pété la gueule sur toutes les affaires d'Internet en 2000, alors que l'Internet a eu lieu. Mm-hmm. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec la bourse, je suis un vieux boursier, hein, je ne peux pas m'empêcher, je trouve rigolo de les voir anticiper un truc considérable, et si ça se passe, ben, vous gagnerez peut-être pas d'argent, parce qu'à ce moment-là, il anticipe tellement le futur, celui-là, que vous vous dites... Et donc, la bourse, c'est un machin rigolo, parce que de temps en temps, il se lance à fond sur un truc, et à ce moment-là, c'est vous avez des trucs comme ça, où la capitalisation boursière de Nvidia est supérieure à la capitalisation boursière de toutes les entreprises chinoises. Mais vous dites, mais yo les gars...
Alors, il y avait aussi, parmi les sociétés, la société néerlandaise ASML, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui fabrique 100% des machines de lithographie à ultraviolet du monde. On va revenir sur le processus, sans lesquels il est tout simplement impossible de fabriquer les puces de pointe. Donc, si tu regardes, en réalité, la part de 40% de l'OPEP dans la production mondiale de pétrole paraît assez peu impressionnante en comparaison de cette densité et le fait qu'on soit dépendant, effectivement, de ces 5 sociétés dans le monde entier pour l'intégralité de la production de semi-conducteurs.
Et c'est très important pour les États-Unis du point de vue économique, parce que ils ont, comme vous le savez, des déficits extérieurs monstrueux. Bon, et les gens se disent, mais qui va financer ces déficits extérieurs monstrueux ? Mais attends une seconde, si le capitalisme est en train de connaître une révolution technologique, et s'il n'y a que 5 sociétés dans le monde, toutes sous contrôle américain, qui sont à l'origine de cette... Toi, si tu as un portefeuille, tu es obligé d'acheter des dollars et acheter des États-Unis. Tu vois, c'est-à-dire le monopole que les États-Unis avaient sur le pétrole, pour avoir du pétrole, il fallait avoir du dollar. Mais maintenant, pour avoir dans ton portefeuille de la technologie comme ça, il faut avoir aussi des dollars. Donc il y a des gens qui me disent, mais le dollar ne va pas baisser parce que c'est le si on veut des actions, on est obligé d'acheter du dollar. Donc ça a toute une série de répercussions qui sont poilantes, enfin pour un gérant.
Alors, on va essayer de revenir en arrière sur comment on est arrivé là. Alors, donc, effectivement, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on était sûr que le monde de l'acier était fini. Donc on arrive dans la Grande Dépression et on a...
Attends, ça c'était avant qu'on avait eu la
Dépression. Oui, c'était avant, mais ouais, on était donc à la fin de la fin, oui. Et on commence à travailler à ce moment-là sur des mathematical table projects. Donc ils faisaient des sortes de tabulations logarithmiques avec des fonctions exponentielles. Ils ont publié 28 volumes de résultats de fonctions complexes comme ça. Ils avaient mis ça dans des grands ouvrages. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà qu'il fallait passer par un computerization de la
alors
pensée.
Alors que les computers existaient à peine.
Alors que les voilà. Et donc ils avaient fait des tableaux avec des réciproques. Mmh. Donc ils avaient déjà l'idée aux États-Unis qu'il fallait faire des ordinateurs et avoir ces fonctions.
Et si je peux me permettre, la plupart de ces recherches ont été faites dans le cadre d'une société qui s'appelait ATT, qui était la grande société de télécom. Et comme c'était un monopole, ils gagnaient tout plein d'argent. Ils ont financé donc un petit peu toutes les recherches technologiques aux États-Unis dans les années 50 et 60, tout était fait dans les laboratoires. Et le coup de génie de, je crois que c'était Reagan, il a décidé de casser ATT. Et donc, toute la technologie qui a émergé, c'était donc tous les petits gars qui travaillaient chez ATT, comme, qui se sont dit, mais moi je vais monter une usine de ceci, etc. Et donc, la rupture du monopole d'ATT des télécoms est à l'origine de la révolution informatique qu'on a dans le monde entier aujourd'hui. Quoi.
Alors, la réelle avancée, et qu'il a fallu réfléchir, penser, dans celle du semi-conducteur, c'est que la plupart des matériaux, soit laissent circuler librement le courant électrique, les fils de cuivre, ou soit le bloquent, comme le verre. Les semi-conducteurs, eux, sont différents, comme le silicium ou le germanium. C'est qu'ils ils ne conduisent presque pas l'électricité. Donc, ils ont réussi, par une sorte de système de transistor, à faire en sorte que le courant passe dans un sens et qu'il ne soit pratiquement pas renvoyé dans l'autre. Ainsi, on avait donc comme une inscription de 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers semi-conducteurs, avec l'intuition qu'il fallait utiliser le silicium, le germanium, c'est-à-dire des matériaux qui eux-mêmes étaient alternatifs justement au courant électrique.
C'est ça, parce qu'il faut savoir que toute l'informatique, toute la langue informatique, c'est des 0 et des 1 que vous mettez en ordre et ça veut tout dire selon le...
Donc en 1948, c'est comme ça que Bell & Labs annonce ce qu'on appelle le transistor, c'est-à-dire une sorte de sandwich où on active et désactive le passage de l'énergie avec les charges des électrons. Mmh. Et comme ça, on avait le dialogue qui se mettait... Et alors donc, ce système de transistor, qui n'est pas un transistor, mais qu'ils appellent transistor, ça remplace bientôt les tubes à vide dans les ordinateurs, parce qu'il y avait des grands sortes de...
Ils faisaient la même chose. Mais ça veut dire que du coup, l'ordinateur passe de la taille d'un building à ce que vous avez dans votre PC. Quoi. Ça a permis un extraordinaire effondrement de
la
taille.
Et alors, en 58, tu as Jack Kilby, qui est un ingénieur de Texas Instruments, qui a une idée révolutionnaire. Il dit, en réalité, on pourrait implanter plusieurs transistors, donc plusieurs microprocesseurs, à l'intérieur d'une seule plaque de silicium ou de germanium. Et ça donna le premier circuit intégré.
Voilà, c'est ça.
Et puis après, donc, la puce.
Et c'était toujours de plus en plus petit.
Alors, on a ensuite une autre intuition d'un autre ingénieur qui s'appelait Jay Lathrop. Et là, c'est lui qui va comprendre, en fait, le mécanisme de lentille avec le microscope. Il dit, en fait, on va inverser la lentille, puisque ça permet de voir plus grand, on va la faire plus petite. Et ça va être... comprendre comment amener le silicium avec la lumière inversée et ça va donner le processus de photolithographie, ce qui permet la production en série de petits transistors. Ouais. Et c'est ce que fait la société ASMV qu'on a vu tout à l'heure, qui était la société... Voilà. C'est comment imprimer avec la lumière ultraviolette à terme. Mmh. Ça va être ça, les débuts en 59. Et dans le milieu des années 60, c'est l'armée des USA qui déployait des puces dans les armements de tout type, des satellites au sonar. Et véritablement le défi, c'était de se dire, il faut que les coûts deviennent suffisamment bas pour que on puisse pousser cela et que ça devienne abordable pour les civils. Et c'est en 65 que Moore prédit que les circuits intégrés doubleraient leur capacité d'année en année. À mesure que le coût baisserait, le nombre d'utilisateurs augmenterait et ça va être désormais connu sur la loi de Moore, c'est-à-dire plus un circuit se développe, plus le coût va diminuer, plus le nombre d'utilisateurs va grandir dans le monde.
Encore une fois, c'est la courbe d'Aftalion que ça allait constamment montrer. Si la courbe se déplace, si le prix baisse, la quantité d'utilisateurs n'augmente pas en fonction du prix, mais en fonction du carré du prix. C'est-à-dire que plus le prix baisse, et le nombre de gens qui étaient 10 au début ne deviennent pas 20, ils deviennent 100, puis ensuite ils deviennent 1000, puis ils deviennent 10 000. Donc il y a
on a vu ça avec la voiture récemment.
On a vu ça avec les téléphones mobiles, on a vu ça avec tout le monde.
C'est-à-dire que ça n'est pas un développement linéaire, c'est comme si c'était des développements exponentiels avec des sortes de busts comme ça, à 1000. C'est-à-dire que quand la somme de la population arrive à 26 000 euros par an, bam,
paf, tout le monde va faire un voyage à l'étranger.
Voilà,
alors qu'avant, personne n'y va, puis d'un seul coup, ils y vont tous. Donc voilà. À ce moment-là, c'est là où vous avez besoin d'agences de voyage, d'avions pour transporter les gens, d'hôtels pour les recevoir, et c'est une espèce de... Puis pouf, ça lance un cycle d'investissement qui peut se terminer après, comme on l'a vu pour le cycle de l'immobilier, avec une surcapacité. Donc ça prend du temps à digérer. Oui. Donc encore une fois, je reviens à une idée essentielle du capitalisme, c'est si vous imaginez que c'est un système tranquille, vous vous plantez. C'est un système qui passe son temps à se surdévelopper, à se casser la gueule, à revenir. Le capitalisme, c'est le chaos.
Alors, pour ce qui est des ventes d'ordinateurs, elles vont passer donc de 1000 en 1957 à des professionnels, à 18 767. On est quand même toujours dans quelque chose d'assez...
C'est toujours des grosses machines. Hein.
Toujours des grosses machines, on est en 67, ça reste, mais voilà. Et en 59, il y a un rapport de la CIA qui avance que les USA, à ce moment-là, n'ont que 2 ou 4 ans d'avance au mieux face aux Russes, parce que les Russes, de leur côté, ont conçu la ville de Zelenograd, qui était un paradis scientifique et qu'ils voulaient penser comme une sorte de Silicon Valley. Le seul problème, c'est marrant que tu parles du capitalisme, c'est qu'ils ont conçu le développement justement de scientifiques avec une série d'ordres qu'il fallait faire remonter à chaque fois. Ouais. Et il y a quelque part pas eu de développement spontané et cette espèce de mine qu'il y a eu dans la Silicon Valley avec des petits gars qui se disaient « Ah, j'ai une intuition, j'ai envie de faire un truc »
sans véritablement... Et qui trouvaient les financements.
C'est-à-dire oui, il y a eu beaucoup d'argent.
Il y a eu beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le capitalisme a été à son meilleur, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui finançaient ces inventions et qui ont fait des fortunes absolument gigantesques. Mais le problème de la Russie, c'est que le petit gars qui était dans sa cuisine, lui, il allait dire à son chef qu'il avait trouvé quelque chose, et le chef lui disait, écoute, on travaille sur les machins qui ont toujours marché, on va pas s'embêter à faire quelque chose de nouveau. Donc, l'invention, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il y a eu une série d'inventions, l'invention, c'est toujours un processus révolutionnaire et qui emmerde tous les gars établis. Quoi.
Oui, bien sûr. Alors, le Japon, de son côté, il avait dépassé en 64 les USA dans la production de composants, tandis que les entreprises américaines, elles, produisaient les puces les plus avancées. Mais ils ne comptent pas en rester là et ils essaient aussi de tirer leur épingle du jeu, de se pousser du col. Et puis, c'est le début de l'envoi de la production aussi à Hong Kong. Où, donc là, on est en 63, il y a 120 millions de puces qui commencent à être produites. Donc, ils commencent à sortir la production des États-Unis parce que c'était un peu trop cher. Et puis...
Il n'y avait pas la qualité de main-d'œuvre, parce que les Asiatiques, ils sont... C'est pas du tout raciste ce que je vais dire, mais ils sont capables de rester des heures sans bouger et tout. Donc, c'est-à-dire la capacité, les usines asiatiques ressemblent pas aux usines américaines. C'est pas donc il fallait d'abord une propreté absolument inouïe, qu'il y ait pas une saleté qui rentre. Donc, les Asiatiques sont très rapidement, c'est eux qui ont pris un peu une grosse partie de la production. Quoi.
Alors, en 68, on a la création d'Intel. Deux ans après. Intel lancera sa première puce, qui est un DRAM, DRAM. C'est une puce DRAM, ça fonctionnait comme les anciennes mémoires à noyaux magnétiques qui stockaient des 1 et des 0 à l'aide de courants électriques. Et bon, alors, les années 80 furent une décennie un peu infernale pour l'ensemble des secteurs des semi-conducteurs, parce que... Après 20 ans de croissance extrêmement rapide, elle était confrontée à ce moment-là à une crise d'envergure qui allait être la concurrence féroce du Japon. Le Japon, de son côté, s'est mis à subventionner énormément son industrie de semi-conducteurs puisqu'il voulait tirer son épingle du jeu. Et donc, les États-Unis sont mis un petit peu à tirer la langue. Mais coup de chance, à ce moment-là, la valeur du yen double par rapport au dollar, ce qui rendait les exportations US moins chères.
Surprise, surprise.
Surprise, surprise. Oui, mais pour une fois que c'est dans ce sens-là, on peut en être content pour les Américains.
L'organisation de la hausse du yen pour foutre en l'air l'industrie japonaise, je pourrais écrire un livre là-dessus.
Oui, oui. Donc, certains s'y ont attelé, ma foi, voilà. En même temps, dis donc, les taux d'intérêt baissèrent fortement autour des années 1980 et redressèrent ainsi le coût d'investissement d'Intel. Bon, alors
ben voilà. Ben, tu sais ce qu'ils ont fait au Japon dans les années 80 de les faire. Ils ont essayé de le faire, ils sont en train d'essayer de le faire à la Chine.
Oui.
Mais la différence, si tu veux, c'est que les Américains ont d'énormes bases militaires au Japon. Ils n'en ont pas tant que ça en Chine, quoi. Ils en ont même zéro. Donc, la Chine, les Américains peuvent donner des ordres, mettons, aux puissances industrielles que sont la Chine, que sont le Japon et l'Allemagne. Mais la Chine, elle leur fait le grand doigt qui sauve. Donc, la bataille qui s'est passée contre le Japon et que les Américains ont gagnée dans les années 80, eh bien, elle est en train de se reproduire à l'identique.
Alors, c'est le moment où Compaq lança ses propres PC utilisant des puces Intel et des logiciels Microsoft à des prix bien inférieurs à ceux d'un PC d'IBM. Donc,
IBM avait refusé le PC.
Oui, mais...
IBM, ils avaient dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qui a besoin d'un ordinateur chez lui, quoi ?
Et les prix chutèrent, donc loi de Moore qu'on a vu tout à l'heure, les prix chutent, là, là, là.
Mais encore une fois, je raconte toujours cette histoire parce que je suis gâteux, mais quand j'étais à gérer de l'argent à Londres, donc dans les années 80, on avait un truc qui était de la taille de cette pièce, au moins, oui, même plus grand, dans lequel on avait des gros ordinateurs qui tournaient, qui devaient faire tout, et ça nous coûtait 3 millions de dollars par an de faire tourner ces ordinateurs. Aujourd'hui, sur mon PC, j'ai plus de capacité, et ça me coûte rien du tout de le faire tourner. Donc les gens ne s'imaginent pas, dans les 40 dernières années, à quel point le coût de l'information et du traitement de l'information est passé de niveau élevé, ça coûtait très cher, à zéro. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans cette espèce de société de l'information. Mais aujourd'hui, le problème, c'est plus acquérir l'information, avoir la donnée. T'en as tellement que tu ne sais plus quoi en foutre, quoi.
Alors, c'est la traiter aussi.
C'est la traiter.
On est savoir sa véracité, c'est-à-dire vérifier les sources des informations
et
qui, quelquefois,
qui sont,
sont données de façon un peu aléatoire et on n'est plus vraiment sûr de rien. Mmh. J'aime bien regarder, moi, des livres comme ça qui sont... Je me dis, bon, bah, au moins, c'est des sources qui me paraissent un peu plus...
Voilà, et c'est ce que tu dis, c'est que le développement du net, etc., c'est qu'il y a des informations qui circulent sur le net que personne n'a vérifié, c'est repris par tout le monde et... Et au bout d'un certain... Par exemple, je t'en donne une, c'est que 97% des scientifiques seraient favorables à la thèse du réchauffement climatique. Tu sais, tu l'as lu partout, ça fait partie.
Oui, mais 97% des scientifiques interrogés dans ma classe ?
Quelle est la source de 97%? Il y a un type qui l'a cherché, et il a trouvé que dans les années 98-99, il y avait un journaliste en Australie qui avait sorti cette information qui n'avait été vérifiée par personne. Mais comme un journaliste l'avait sorti, ça a été repris par tout le monde parce que ça plaisait. Et du coup, maintenant, quand tu parles aux gens dans la rue, mais ils te disent 97% des scientifiques pensent que le réchauffement... Mais c'est typiquement une information je sais pas si elle est vraie ou fausse, mais qui n'a pas été vérifiée, mais qui est reprise. Elle a été reprise tellement de fois que du coup, elle a acquis...
Oui, mais c'est exactement pareil quand tu dis 97% des jeunes. Mais si tu fais un sondage au QG de la NUPES, oui, c'est le genre de truc que tu vas avoir. Demande-moi où tu fais ton sondage de 97%.
Bon, ça fait partie de la qualité des sondages.
Et sur quelle base est-ce que c'est vraiment achalandé comme la population ?
Moi, ce que je dis toujours, c'est que 97% des scientifiques sont favorables aux thèses défendues par les gens qui les payent.
Oui, bien
sûr. Ça, j'en suis certain, ça.
Alors, pour revenir sur le Japon, la plus grande erreur commise par les fabricants japonais à l'époque fut de ne pas voir l'essor du domaine de l'ordinateur personnel. Voilà. Et assez peu de gens se sont dit qu'on allait en avoir envie. C'est vrai qu'avant Internet, on pouvait se dire ouais, enfin, les gens vont pas payer ça pour avoir un traitement de texte, en gros, chez eux.
Il y a eu des machines qui faisaient que des traitements de texte, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, mais bien sûr, j'en ai une. Mais si tu veux, effectivement, les gens se disaient mais pourquoi ? Une fois que tu as Internet, tu comprends bien sûr l'intérêt, mais au début, tu te dis mais pourquoi les gens vont vouloir avoir un ordinateur pour faire leur comptabilité ?
C'était passé, nous, en France, on avait, comment ça s'appelle, l'espèce de.
Petit... Le Minitel.
Le Minitel, et on était très, très en avance surtout. Et puis les types qui avaient fait le Minitel, on a dit, ben, on va remplacer ça par des ordinateurs. Ils ont dit, non, pas du tout, les gens vont regarder le Minitel, ils ont l'habitude. Et donc, nous, on avait fait le pas vers l'ordinateur à la maison. Et littéralement, on a eu la flemme de transporter.
Le Minitel a bien marché aussi parce qu'il y avait des trucs coquins. Hein. Et les gens pouvaient faire le téléphone rose. Hein.
Et tu crois que sur l'ordinateur, il n'y a pas les gens là. Je crois que les 60% des visions sur Internet...
C'était des trucs coquins.
C'est des saloperies.
C'est alors, pas là. Faux. Alors... aucun géant japonais de puces ne put suivre le virage d'Intel vers le microprocesseur ni égaler sa maîtrise dans le domaine des PC. Seule une entreprise nippone, NEC, tenta vraiment, mais elle n'obtient qu'une infime part du marché des microprocesseurs.
Après ça, il y a Samsung qui s'y collait, mais c'était en Corée.
Alors, on va passer à l'idée des circuits intégrés. Alors là, c'est le ministre taïwanais Kitty Lee, qui convoqua, ça c'est dans les années 85. On est 20 ans après la première installation de semi-conducteurs dans l'île. Et dans les années 90, l'importance de Taïwan devient évidente sous l'effet de l'essor spectaculaire de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Donc on a vraiment là un démarrage. Alors l'État prend 48% de part dans cette société. Et on a une mainmise sur la planète absolument totale. C'est-à-dire TSMC devient le fabricant mondial.
Il faut savoir
mondial.
Qu'établir une nouvelle usine de semi-conducteurs ou des choses comme ça, ça coûte quasiment plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc on arrive donc dans ces sociétés, et on le voit un peu partout. Une fois que tu es en position dominante, c'est vraiment le truc de, comme on dit en anglais, the winner takes all, le gagnant, celui qui a fait les investissements avant, qui a trouvé les bonnes formules avant, les autres ne peuvent pas le rattraper. Quoi. Donc on a une série de monopoles qui se mettent en place.
Alors, on a donc une géographie de la fabrication des puces qui changea radicalement au cours des années 90 à 2000. Les fonderies américaines produisaient 37% des puces mondiales en 90, mais son chiffre tomba à 19% en 2000, puis à 13% en 2010.
Oui, et puis ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'installer des usines, justement, dans le désert du Mexique, ou j'en sais rien, aux États-Unis. Mais le problème qu'ils trouvent, encore une fois, c'est un problème de personnel. Parce que c'est pas tout le monde qui peut travailler dans ce genre d'usine, quoi.
Non, aussi, oui. L'autre guerre que l'on a, c'est la guerre de la lithographie. Je t'en ai parlé. Ça, c'était avec les lumières violettes. Alors là, on a un pari de 200 millions de dollars en 92 pour graver avec la lumière ultraviolette extrême en longueur d'onde des choses de plus en plus petites. Et puis pour graver aussi sur le silicium. Le seul concurrent à ce moment-là sont Nikon et Canon. Mais ASML, cette petite société néerlandaise de lithographie, est en pleine croissance et elle a le mérite aussi d'être en dehors du conflit à l'époque. Japon États-Unis, ce qui lui permet de tirer son épingle du jeu, et elle devient aussi cette petite société ASML toute puissante.
Encore une fois, c'est une montée en puissance d'un monopole.
D'une hyperspécialisation.
Qui amène à un monopole dans un endroit très précis.
Voilà. Alors, arrive Steve Jobs, qui utilise désormais les puces Intel. Et il demande à ce moment-là, dans les années 2000, à Intel de lui faire une puce pour intégrer dans le téléphone. Mais le PDG, Antelini, refuse en lui disant « Non, je ne vois pas pourquoi ça serait intéressant, ça va faire beaucoup de travail et puis nous, on a déjà suffisamment de trucs à faire. » Et donc, il sort de cette demande-là et il va vers une autre architecture, qui est l'architecture ARM qu'on a vu tout à l'heure. Et les premiers processeurs, alors, furent produits par Samsung.
Oui, c'est ça. Et on voit apparaître les Coréens. Qui sont... Et c'est rigolo, le téléphone, parce que là, c'est un développement parallèle à celui de l'ordinateur, mais pas, qui ne fait pas la même chose, mais enfin, qui se retrouche. Et ce qui est très intéressant, je regarde ce que fait Musk aujourd'hui. Alors, Musk, il a envoyé tous ses satellites, vous savez, qui sont en train de tourner autour de la Terre. Il en a envoyé des dizaines et des dizaines. Et quand vous réfléchissez à ce que veut Musk, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a tous des téléphones qui sont chez...
Apple
Non, mais chez Orange ou chez...
Oui, SFR.
SFR et tout ça. Donc, il y a des récepteurs, puis vous avez des antennes qui vous envoient des signaux, etc. Si Musk réussit à miniaturiser suffisamment le truc que tu peux acheter, que tu mets chez toi sur ta terrasse, qui est une petite coupole comme ça pour recevoir son satellite.
Un dish.
Mais s'il réussit à le faire petit, comme ça le faire ces gars-là, à ce moment-là, tu auras le même numéro de téléphone dans le monde entier. Et tu t'abonneras directement chez Musk. C'est-à-dire que Musk a comme ambition maintenant de tuer Orange. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu auras un numéro de téléphone et tu pourras téléphoner du monde entier. Ça ne te coûtera pas plus cher que si tu étais donc le truc des... Et ça aussi, c'est une révolution qui arrive. Et quand ça arrivera à la réception de l'antenne, là, ça va être incroyable. Ça va tout changer. Quoi. Donc, on est vraiment dans une révolution...
Copernicienne
de l'information, du coût de l'information, de la communication entre les gens. Et c'est extraordinaire de voir à quel point c'est encore une fois la création destructrice. D'un côté, t'as tout ça qui monte comme des fusées, les gens travaillent comme des fous, ils sont. Puis de l'autre côté, t'as toutes les vieilles industries là qui rament en se disant mais. Donc c'est la création destructive au niveau sociétal.
Alors parallèlement à ça, il y a effectivement le défi chinois et le fait que la Chine ait réussi plus ou moins à dompter les gens américains, Google et Facebook, puisqu'ils ont été interdits en Chine. Et pendant les années 2000-2010, la Chine va dépenser plus d'argent pour importer les semi-conducteurs que pour s'approvisionner en pétrole. Donc la Chine demande à ses scientifiques de faire des efforts sur toutes ces questions-là. Elle les pousse, elle leur donne des incentives.
C'est qu'il y a un paquet de scientifiques qui sont en Californie, qui sont d'origine chinoise.
Oui, aussi. Alors, attends. Donc, Huawei, c'est quoi? C'est deux
Huawei.
Décennies...
Huawei,
je ne sais pas le prononcer. C'est deux décennies de conflit avec les services de sécurité nationale des USA. Et son essor est surtout dû au vol de propriété intellectuelle reconnu à Cisco, qui était un concurrent des Américains. Et ça a suivi les intérêts de l'État chinois, d'où le fait que ce soit vu par les États-Unis de façon très par-dessous la jambe. Parce qu'il y avait un développement qui était aussi de géostratégie.
Oui, si j'ose dire, sans vouloir dire du mal des gens terrestres, comme tu dis souvent, mais... Les Américains, ils n'ont pas été particulièrement économes d'espionner les processus industriels français, allemands, etc. Le fait que les Chinois leur aient barboté des processus, les Américains nous en ont barboté tout un tas, comme par exemple les processus que Macron a vendus sur les turbines nucléaires, etc. Donc, l'espionnage industriel... les Américains ont condamné les Huawei, certainement à juste titre, mais en fait, je suis bien persuadé qu'il y a des trucs qui sont aux États-Unis, qui ont été inventés en Corée ou au Japon, qui ont été barbotés aussi. Donc, c'est pas le coup du chevalier blanc contre le chevalier noir.
Oui, non, de toute façon, ça l'est jamais dans les histoires industrielles. Alors, vers 2015, il y a eu des profonds changements qui se sont mis en place du côté de la gouvernance américaine. Et Washington a quand même décidé d'ignorer la montée de la puissance de l'économie chinoise et l'écrasante dépendance à l'égard de Taïwan et de la Corée du Sud, chaque année plus flagrante.
Ça, c'était Obama.
Oui. Les USA semblaient continuer de croire que la coopération était bénéfique pour tous. Et puis, arrive Trump... Et là, il a dit « Non, je pense que Huawei se fout un peu de notre gueule. » Et à ce moment-là, il demande...
Mais il paraît qu'il avait reçu la veille le patron d'Intel.
Bon. Et à ce moment-là, Trump dit à l'Angleterre « Est-ce que vous pourriez aussi évaluer ?» L'Angleterre dit « Bah nous, on a évalué, on ne trouve pas qu'il y a de risque. » La Nouvelle-Zélande dit « Bah non, nous, on va faire comme Trump, on pense qu'il y a un risque. » Et ça a été le début de la restructuration des produits chinois sur le sol américain et des questions relatives aux accords ultra-internationaux à ce moment-là.
Parce que, à ce moment-là, vous rentrez dans toutes les histoires de ce qu'on appelait autrefois le GATT, l'Organisation du commerce mondial. Parce que ce à quoi les Américains se sont livrés, c'est à une très belle opération de protectionnisme, quoi.
Oui, mais il y en a eu sous Trump. Ouais. Et alors, ce dont on ne se rend pas compte, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais le coût de conception d'une nouvelle puce de pointe, aujourd'hui, ça peut dépasser $100 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se dit, tenez, on va se réunir, on va monter un labo, on va essayer de concevoir une nouvelle puce de pointe, il faut au moins trouver 100 millions de dollars pour lancer...
C'est là où vous revoyez Nvidia. C'est là. Eux, ils sont spécialisés dans les hyperpuces, les trucs qu'on mettra dans l'intelligence artificielle. Et donc, les gens se disent qu'il va se passer sur ce genre de puce qui s'est passé sur le PC. C'est-à-dire que d'un seul coup, la demande va atteindre le public et ça va.
La loi de Moore.
La loi de Moore, mais voilà. Donc c'est. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois dans l'histoire que la quantité, dans le fond, d'informations double à peu près tous les 4 ans, quoi. Et c'est là où, évidemment, on commence à être paumé parce qu'on ne sait plus où aller la chercher. Et c'est là où l'intelligence artificielle vient. C'est pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, l'intelligence artificielle, ça n'est après tout qu'un effort pour mettre de l'ordre dans un truc qui croît tellement vite que plus personne, une chatte, ne retrouvait pas ses petits, quoi. C'est assez marrant, quoi.
Alors voilà, en tous les cas, moi j'ai trouvé ce bouquin vraiment intéressant. Il est très bien écrit parce que c'est un professeur d'histoire qui rend l'histoire passionnante. Donc toute la première partie, il le fait comme un conte. Et donc il vous raconte depuis les années 50 comment un tel a trouvé ci, comment un tel a trouvé ça, comment la somme de toutes ces recherches... sont arrivés aujourd'hui au développement des microprocesseurs. Et dans la deuxième partie, il s'évertue à regarder les conséquences géopolitiques des uns et des autres et les évolutions possibles dans le monde de demain. J'ai essayé de faire une petite exégèse de son texte, mais il y a des parties, par exemple sur la Chine ou sur les États-Unis, qui sont très longue, parce que c'est quand même, tu vois, un bouquin assez dense.
C'est écrit petit.
Ça va. Mais encore une fois, c'est écrit un peu comme un... Il fait des efforts pour essayer de romancer, pour donner vie aux personnages. Donc c'est quand il parle de personnages scientifiques qui ont fait des découvertes, il raconte leur caractère, il raconte leur phobie, voilà. Donc c'est en réalité assez vivant. Donc c'est tout à fait lisible et les questions de semi-conducteurs vous intéressent. Voilà, c'est tout à fait recommandable.
Si vous voulez comprendre ce qui arrive à l'intelligence artificielle et tout, il faut lire ce genre de livre parce que au moins, vous aurez les bases pour comprendre, pour mettre de l'ordre dans ce que ça veut dire. Parce que ce qui m'inquiète avec l'intelligence artificielle, c'est que les gens sont en train d'en faire une espèce de loup-garou, c'est-à-dire qu'on va tous perdre notre indépendance, etc. En fait, non, c'est une autre façon de calculer plus vite, quoi, ou d'avoir des informations.
Moi, j'étais contente d'apprendre cette histoire de semi-conducteur, le fait que le silicium ou le géranium soit la base pour permettre au courant de passer dans un sens et pas dans l'autre. Et du coup, j'ai compris physiquement ce que voulait dire imprimer sur ces semi-conducteurs. Voilà. Et donc, j'ai trouvé cette partie intéressante en tant que... néophyte. Mais bon, pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus scientifiques, ils trouveront peut-être ça justement pas assez...
Mais il faut dire aussi que, par exemple, que l'arrivée à l'information gratuite comme ça, disponible sur les écrans dans les années 80, c'est ça qui a fait sauter l'Union soviétique. Parce que d'un seul coup, l'information, elle devenait... Ils pouvaient plus contrôler l'information. Ce qu'aujourd'hui dans le monde, personne ne peut plus contrôler l'information.
Non, tu peux l'anticiper, tu peux essayer de la contourner.
Tu peux essayer
de lui faire dire
une autre histoire, etc. Tu peux essayer de ne pas parler de ça, mais ça, on en parlera ailleurs. Donc, cette histoire de liberté de l'information, c'est assez rigolo ce qui se passe, parce que vous avez les gars qui étaient partisans de la liberté de l'information, comme la gauche, qui deviennent d'un seul coup partisans de la censure. Et les gars de droite qui n'étaient pas toujours partisans de la liberté de l'information qui disent, puisque ça emmerde des gens de gauche, c'est que ça doit être bien, je vais devenir partisan de la liberté de l'information.
C'est quand compliqué. Même absolument hallucinant de voir qu'aujourd'hui, toute la gauche justement s'énerve contre une chaîne comme CNews, qui est donc une chaîne privée, et tu leur dis, mais si vous l'aimez pas, la regardez pas, mon Dieu. Non, il faut pas qu'elle existe. Tu dis, mais nous, on se prend des France Culture, des Arte, des trucs quand veux-tu, en voilà, depuis 40 ans, ferme notre gueule, et là, il y a une chaîne, tu la regardes pas, moi, je sais pas, t'éteins ton poste.
Mais ça veut dire que le vrai problème de la gauche, qui existe depuis toujours, c'est qu'ils pensent avoir la légitimité pour dire ce qui est bon et vrai, et personne d'autre ne l'a. Donc, en fait... les gens de gauche pensent que l'information que eux ils reçoivent et qu'ils transmettent est la seule bonne. Ce qui veut dire que, parce que leur raisonnement n'est pas un raisonnement concurrentiel, c'est un raisonnement de monopole. Ils ont le monopole de la légitimité. Et on va avoir des élections en France, hein, et tu entends déjà que les gens du Rassemblement National, s'ils étaient élus, ils ne sont pas légitimes. Mais ils ne sont pas légitimes, pourquoi ? Ce qui donne la légitimité, c'est l'élection, c'est pas l'onction de la gauche. Or, eux, pour eux, ce qui donne la légitimité, c'est si eux, ils trouvent que c'est légitime. C'est quand même une ânerie qui dépasse l'entendement, non ?
Je trouve ça surtout d'un orgueil absolument terrifiant, parce que...
Mais c'est un régime religieux, j'ai raison.
Voilà.
Parce que je sais, je suis.
Je vais te dire mieux, moi, si demain il y a une conférence de gens qui disent voilà, la Terre est plate, je sais qu'ils ont tort, mais alors, Dieu du ciel, faites votre conférence sur la Terre est plate. Me gêne absolument pas. Si vous m'empêchez pas de passer, franchement, je m'en fous.
Voilà, donc ils pensent qu'ils ont le droit de filtrer l'information et de vous dire celle que vous avez le droit de recevoir. C'est-à-dire que dans le fond, ils pensent que vous êtes idiot. Et qu'eux, ils sont intelligents.
Oui, mais d'ailleurs, il y a eu Émeric Caron, c'est celui qui ne veut pas faire de mal aux mouches. Aux moustiques, oui, mais same difference. Qui nous expliquait qu'il pensait qu'il fallait sérieusement avoir un permis de voter.
Donc on revient. En fonction de l'intelligence, oui, c'est ça.
Voilà, donc on revient. Ce qui, entre parenthèses, étaient les mesures des nazis qui stérilisaient les femmes qui avaient un QI inférieur à 80 pour pas qu'elles puissent voter aussi.
Oui.
Se reproduire.
Se reproduire considéraient... aussi.
Non, mais ça procède de la même idée, qu'il y aurait des humains capables et des humains moins capables.
Voilà,
et qu'il leur appartiendrait, eux, de décider.
Ce que j'appelle les oints du Seigneur.
Voilà.
C'est les gens qui ont été anoblis par Dieu, avec qui ils ont une ligne directe et qui doivent dispenser la bonne parole au pauvre peuple là qui comprend rien, qui est bête, qui est... Mais enfin, on veut leur bien quand même. On veut leur bien, donc... je sais plus qui... Seigneur, protégez-moi des gens qui me veulent du bien, disait Bastien.
Voilà. Eh bien, écoutez, avec tout ça, j'espère que ça vous aura intéressé. Nous, ça va être notre dernière émission avant ce qu'on vous souhaite comme un très bel été. On va être amené à voter, on va être amené à avoir peut-être ce pays à feu et à sang. Quand on reprendra l'antenne, on aura eu des Jeux Olympiques de compétition. On ne se sera pas baigné dans la Seine.
Non.
Et donc, écoutez, pour nous, on a été très heureux de pouvoir faire une année de plus.
Et puis de votre soutien, parce que vous continuez, on arrive presque à 350 000, donc c'est drôlement bien.
On est très heureux.
On est très heureux, on a lancé l'Université de l'Épargne, qui a l'air de bien démarrer. On va faire d'autres choses. L'idée, c'est, encore une fois, notre but, c'est d'essayer de monter des émissions, etc. On va peut-être voir d'autres domaines, mais dans lequel c'est vous. On vous amène des informations, on vous dit à notre avis ce qu'elle veut dire, mais vous restez maître de la regarder ou pas. Ce que je veux dire, c'est que notre but, c'est pas de vous endoctriner, si j'ose dire, c'est de vous aider à vous former une opinion par vous-même. C'est le but que devrait avoir l'éducation nationale, mais qu'elle n'a plus. C'est bien dommage.
Voilà, donc on vous dit de très belles vacances et on vous voit très vite à la rentrée. Alors,
et n'oubliez pas, si vous n'avez rien à faire dans l'été, d'acheter Conflit et d'acheter Transition Énergie, parce que c'est deux très bonnes publications.
Voilà, et si on vous manque trop, et vous pouvez aussi nous retrouver à www.universitedelépargne.fr où on continue tout l'été à vous faire des cours d'économie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et de finance et de gestion. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci infiniment.